Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jacques Henric, qui publie La balance des blancs aux éditions du Seuil. Je sors le Leica de sa sacoche et m'apprête à prendre un instantané de ce qu'est la cohésion du monde quand il s'efface. Mais merde, dans cette obscurité, faut-il régler cette fichue balance des blancs et comment ? Ce soir, Jacques Henric, que vos premiers romans, c'est dans une collection intitulée telle quelle que vous les avez publiés. Je me souviens d'Archer en 1969, de Chasse en 1975, de Carousel en 1980. Il me semble d'ailleurs que Carousel, vous étiez venu en parler, non pas dans Du jour au lendemain qui n'existait pas encore, mais dans Nuit magnétique. Et puis, il y a le journalisme qui tient une place importante dans votre vie. Vous avez collaboré aux Lettres françaises. Et c'est là que vous avez rencontré Catherine Millet. Vous le racontez d'ailleurs dans La balance des blancs. Vous dites que cette femme est devenue pour vous la figure sacrée du désir en un instant.
Oui, on appelle ça le coup de foudre, non ? Des fois, il me semble.
Ça arrive.
Oui, c'est ça. C'est même plus étrange d'ailleurs, parce que, mais je dois le raconter également, avant de la connaître, en lisant ces textes dans les Lettres françaises, des textes qui par eux-mêmes ne devaient pas du tout attirer mon attention, puisqu'elle écrivait sur de l'art très contemporain. Moi, j'étais enseignant très loin de Paris, et je dois dire que tout ce monde de l'art contemporain m'était complètement étranger. Et puis le connaissant, je dois dire que ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Il y a très bons artistes que j'aime beaucoup, mais enfin, en général, ce qu'on appelle l'art contemporain ne m'a jamais beaucoup retenu. Et pourquoi me suis-je mis en tête, en lisant ces articles, j'avais dit ça d'ailleurs d'une façon un peu presque vulgaire, celle-là, voilà, je l'aurai.
Bon, pourquoi ? Je la veux, je l'aurai.
Je la veux, je l'aurai.
Alors, un peu là, macho, vraiment, hein ?
Complètement macho, mais j'assume. Hein. Parce qu'on ne se refait pas, c'est mon vieux côté catalan peut-être, j'en sais rien. Mais voilà, et donc j'étais un peu préparé quand même. Et puis j'avais quand même déjà des renseignements sur sa biographie, et notamment sur sa vie sexuelle, maintenant que le monde entier connaît. Alors, peut-être cela a joué aussi, et puis la personne, la beauté, etc. Et donc, quand je l'ai vue, en effet, ça a été effectivement le coup de foudre qui ne s'est pas démenti jusqu'à maintenant, quelle qu'ait pu être notre vie très, très mouvementée, mais à la fois très passionnante.
Mmh. En tout cas, aujourd'hui, vous n'écrivez plus dans les Lettres françaises, mais dans Art Press dirigé par Catherine Millet, et qui publie à partir de ce mois-ci sa nouvelle formule, avec le numéro 378. Qu'est-ce qui change dans Art Press ?
Voilà, vous me demandez ça à moi. Mais vous savez, je ne m'étais même pas trop aperçu que ça avait changé à ce point-là.
Il y a écrit une nouvelle formule.
Ah, il y a une nouvelle. Mais vous savez pourquoi ? C'est-à-dire que pour des histoires de distribution, tous les journaux, si vous regardez par exemple Express Le Point, à chaque fois, il y a marqué « nouvelle formule ». Pour quelle raison on nous a imposé qu'il y ait une nouvelle formule ? Donc il fallait changer légèrement la dimension du journal, le format. Et aussi, bizarrement d'ailleurs, c'est quand même incroyable en France, ça, cette histoire de ce syndicat qui est pas seulement majoritaire, mais enfin qui règle tout, il fallait changer aussi le contenu. Alors, je ne crois pas que le contenu ait beaucoup changé. Ce qui a dû changer, c'est probablement la page de couverture où il y a eu des améliorations, peut-être un peu de mise en page aussi. Voilà.
Une typo légèrement modifiée.
Peut-être, voilà, oui.
Voilà. Mais ce qui n'a pas changé, c'est la place réservée aux livres dans Art Press, qui n'est pas seulement un journal où on rencontre de l'art contemporain. Heureusement pour vous, il y a un cahier livre, pour ainsi dire, à l'intérieur du journal. Qui prend de plus en plus d'importance, me semble-t-il.
Je voudrais qu'il en prenne plus, d'ailleurs, parce qu'on est toujours un peu limité par les pages. Il est quand même assez important. Vous savez, depuis qu'Art Press existe, depuis les années 71, je crois, il y a toujours eu une place très importante qui était accordée à la littérature. On se bat un petit peu à chaque fois pour grignoter une page ou deux. Mais enfin, c'est quelque chose de très important. Il y a des gens, je le sais, qui achètent le journal que pour les pages littéraires, d'autres que pour les pages art contemporain. Voilà. En plus, comme on a maintenant dans cette rédaction des gens beaucoup plus jeunes, qui ont des goûts un peu différents des miens, moi je suis un peu la vieille garde, on s'entend très bien, on n'a pas les mêmes goûts, apportent leurs collaborateurs, moi les miens, et tout ça se passe plutôt bien, et je crois que c'est quand même un ensemble qui est pas mal fait, je crois.
Et vous, alors en particulier, Jacques-Henri, vous signez le feuilleton dans chaque numéro d'Art Press. Cette fois-ci, vous parlez de l'amour sous l'angle de la réciprocité, en rendant compte de deux livres, un livre de Nicolas Grimaldi, Métamorphose de l'amour, et celui de Pierre Pachet, Sans amour. Votre chronique, vous la terminez par une citation de Casanova, « Je sais aussi que je n'existerai plus quand j'aurai fini de sentir ». Et ça m'intéresse bien cette citation, parce que ça me permet de faire le lien avec le livre dont nous allons parler ce soir, La balance des blancs, car Casanova en est l'un des héros, si je puis employer ce mot.
C'est un peu mon Virgile, voyez-vous. Je ne me prends pas pour Dante, mais c'est un peu lui qui m'a conduit tout au long de ce récit. La raison... Vous l'avez compris en lisant le livre, et puis je m'en suis expliqué déjà, c'est que le chirurgien qui m'a opéré, puisque le point de départ du livre est cette opération chirurgicale, s'appelait Casanova. Et mon médecin traitant, qui m'avait envoyé à lui, m'a dit ça, tu ne l'inventerais pas, il s'appelle Casanova. C'était trop beau. En effet, c'est les hasards de la vie. Quand j'ai eu terminé le livre, quand même, j'ai eu la politesse d'en parler à ce chirurgien et de lui demander est-ce que ça vous ennuie si votre nom apparaît comme tel, parce qu'il faut quand même être très, très prudent. Il n'avait rien à craindre. Je crois qu'au contraire, je ne fais que beaucoup de réclames pour sa profession et pour ce qu'il en fait lui. Mais quand même, je voulais être assuré que il ne voyait pas d'inconvénient. Et je me disais, si jamais il me dit non, je vais avoir un gros problème. Parce que du coup, comment je vais arriver, pas seulement introduire le Casanova, ça encore j'aurais pu le faire. Mais tout au long du livre, quand même, il y a ce jeu entre les deux. Et là, j'aurais eu un gros problème. Il a été très, très généreux en me disant, mais non, pas du tout, au contraire. Simplement, vous m'offrirez votre livre. Et puis d'ailleurs, je viens de recevoir une lettre hier de lui me disant tout le bien qu'il pensait du livre, et ajoutant d'ailleurs une chose assez amusante, puisque le livre s'appelle « La balance des blancs », je peux revenir un peu sur le titre.
Ça vient de la vidéo, de la technique.
Oui, qui est un terme technique que je connaissais sans savoir moi-même comment on fait. Pourtant, j'ai déjà fait beaucoup de photos. Je savais que ça existait, qu'il fallait mettre une surface blanche avant de filmer ou avant de photographier pour que ça harmonise un peu les photos, pour que les couleurs des photos ne soient pas gênées, je crois, par la
couleur de la source.
Voilà, la couleur de la source. Mais peut-être vous connaissez très bien. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens, même qui faisaient de la photo, ne savaient pas ce que ça voulait dire. Ce chirurgien me dit, mais vous savez, si je vous avais opéré, puisqu'il m'a opéré vraiment comme une opération traditionnelle, c'est-à-dire on vous ouvre le ventre, on vous retire ce qui ne va pas, etc. Mais si je vous avais opéré par, je crois que ça s'appelle la celluloscopie, vous savez, cet appareil qu'on vous introduit, on vous opère comme ça avec une caméra, il me dit, on aurait été nous aussi obligés de faire la balance des blancs. Tout s'est bien passé.
Voilà, donc le titre s'imposait. Vous avez un moment hésité avec un autre titre qui est les tribulations du phallus.
Oui, c'est ça. Bah, c'est le thème quand même général du livre, hein, qui court tout au long du livre. Le titre d'ailleurs, en fait, c'est bizarre les titres. Vous avez des fois un titre, un livre que vous avez terminé, vous cherchez le titre et vous ne l'avez pas, vous n'arrivez pas à le trouver. Quelquefois, vous avez les deux d'un seul coup, ça c'est formidable. Moi, c'est un matin en me réveillant comme ça, auprès de mon épouse, je lui dis, tiens, c'est bizarre cette nuit, pourquoi m'est venu ce titre-là ? Enfin, ce titre, non, cette expression, je savais ce qu'elle voulait dire. Bon, vous savez, c'est l'inconscient, la nuit, qu'est-ce qui se passe ? Le matin, on se réveille avec des airs de chansons complètement idiots ou des poèmes. Bon. Là, c'était la balance des blancs. Et j'ai dit donc à mon épouse, dans le demi-sommeil encore, je lui ai dit, mais tiens, ça se ferait un titre pas si mal que ça. Voilà. Et puis après, le problème, c'était de le remplir, ce titre. J'avais aucune idée d'abord d'un livre que j'allais faire, et en plus de ce que j'allais mettre. Bon, voilà.
Vertige devant la page blanche.
Voilà, oui. Bon, enfin, j'avais le titre, hein, donc après, il n'y avait plus qu'à commencer. C'est une fois que vous avez les premiers mots, hein, comme on dit, ça va. Ouais. J'avais le titre, donc ça va.
Alors, il y a une petite bizarrerie tout de même, c'est qu'en couverture, le livre est sous-titré « Récit » et en page de garde, je lis « Roman ».
Mais oui, c'est bizarre. Ah, ben, mais
comment vous expliquez ça ?
Mais j'en sais rien. Mais oui, mais j'ai découvert ça, hein. C'est curieux, en effet. D'abord, je crois, sur la page, vraiment la couverture, il me semble qu'au début, il y avait roman. Et puis, je m'étais dit, bon, je ne vais pas discuter avec l'éditeur, avec Bernard, comment. Le mot roman ne me paraît pas tout à fait adapté, dans le sens qu'il a aujourd'hui, au sens qu'il avait avant, large, on peut considérer que c'est un roman. Et puis, je dis, bon, allez, allons-y pour roman, parce que si on ne met pas roman, il paraît que ce n'est pas très bien. Bon, il faut qu'il y ait marqué au récit, au roman, ou je ne sais quoi. Bon.
Ouais, parce qu'on sait pas.
Et puis, après, j'ai découvert, en effet, comme vous, mais je l'ai découvert après, qu'il y avait marqué après. Il y avait récit et roman. Bon, bah, écoutez, chacun prend ce qu'il veut. Hein.
Fait la balance.
Oui, c'est ça.
Les romans, en tout cas, au début, sont plutôt maltraités dans votre livre, Jacques-Henri, car vous êtes à la clinique Saint-Jean de Dieu. Et,
ça aussi, on ne l'inventerait pas. Hein.
Vous essayez d'en lire pour passer le temps, et il vous tombe des mains. Trop de mots morts, dites-vous.
Oui, vous savez, des romans, j'en reçois beaucoup, justement, pour Art Press. Alors, je voudrais pas passer quand même pour un vieux con, quoi, disant « Ah, mais moi, de mon temps, etc. » À vrai dire, j'ai jamais été un grand lecteur de romans. Les romans, bien sûr, Stendhal, même Zola, enfin, le 19e siècle. Les romans d'Aragon aussi, un peu, les romans dits du cycle réel. Mais enfin, bon, moi, ma culture, c'était pas trop ça. Hein. C'était la culture des gens, disons, avant-gardistes. C'était plutôt le surréalisme, Bataille, toute cette culture, à mon avis, qui est la grande culture du XXe siècle, plus que le roman. Je pense qu'à quelques exceptions près, on voit bien, par exemple, comment Sartre n'a jamais pu finir ses romans. Même Aragon, c'est communiste, il n'a jamais pu venir à bout. Je pense qu'il y a un genre littéraire, le roman traditionnel, d'imagination, etc., qui est un petit peu poussif. Bon, et c'est vrai que j'ai du mal à... Bon, il y en a des très bons, hein, mais je lis plus des biographies, des essais ou quelquefois de la poésie que des romans.
Mais il me semble que vous répondez d'ailleurs vous-même très bien à cette question du roman à la fin de votre livre, lorsque vous dites « Le romancier serait-il devenu sourd, aveugle, insensible ?» Vous voyez, on retrouve Casanova, « Je n'existerai plus quand j'aurai fini de sentir », ou simplement porteur d'une frousse qui le dissuaderait de se frotter au mal.
Oui, peut-être qu'en effet, cette préoccupation que j'ai... j'ai quand même publié, vous vous souvenez, un livre qui s'appelle « La peinture et le mal »,
oui.
Bon, qui était aussi une référence à Bataille, la littérature et le mal. C'est dire que, de toute façon, cette thématique du mal, qui est à nouveau présente dans ce livre-ci, a toujours été très, très, m'a toujours beaucoup occupé. Je pense qu'en effet, le roman tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est devenu, a une certaine incapacité à traiter cette question-là. Bon, voilà, on peut me montrer des romans peut-être que je n'ai pas lus qui contrediraient ça, mais quand même, je pense qu'il a, il y a un outil qui n'est plus performant pour ce genre de travail qui m'intéresse, moi.
Et puis ça vous ramène à Casanova, tout de même, dont nous parlions, et qui est le personnage central de ce récit. Vous n'avez pas inventé son nom, vous le disiez tout à l'heure. Pour vous, c'est un nom plutôt engageant. Vous racontez qu'après avoir quitté son cabinet, lorsqu'il vous a annoncé son diagnostic, vous êtes activé dans une relative bonne humeur et avec l'humour qu'exige un tel début de mimodrame, parce que ce n'était pas tellement agréable à entendre ce qu'il vous a dit. Et vous êtes mis à vérifier le bon état de votre modeste panoplie, dites-vous. Et cette panoplie, c'est ben, un certain nombre d'armes qui pourraient faire rêver certains pères de famille.
Mais vous savez, je vais quand même pas vous apprendre quelque chose, vous qui êtes aussi un homme, que d'abord quand on vous annonce un type de maladie qui a pour horizon, de toute façon, on sait très bien qu'un jour on va mourir, mais c'est encore un peu métaphysique, c'est encore quelque chose qui est, bon voilà, on sait que la vie, c'est les forces qui résistent à la mort et qu'un jour, tout ça va faiblir et qu'on va y passer. Mais quand ce type de maladie vous est annoncé, brusquement, l'horizon a tendance un peu à se rapprocher. Donc, il y a déjà cette difficulté quand même d'accepter le diagnostic. Et puis, il y a autre chose dans ce type-là, puisqu'il s'agit d'une opération de la prostate. On sait aussi, et d'ailleurs on vous le dit tout de suite, que ce type d'opération menace aussi votre virilité. Mmh. Bon. Or, pour un homme, la virilité, c'est là où on voit quand même un petit peu la différence entre, disons, la sexualité féminine et la sexualité masculine, laquelle, d'ailleurs, je le dis, est souvent méconnue. J'ai été très frappé, parce que je ne m'étais jamais vraiment intéressé tellement à ces questions-là, à quel point aussi bien les hommes que les femmes peuvent être absolument incultes quant à ce qu'est la sexualité masculine. Ah, la féminine, oui, on en a beaucoup parlé, on n'en sait pas plus. Mais enfin, la psychanalyse, tout ça, voilà, la sexualité, le mystère de la sexualité féminine, le continent noir de la sexualité féminine, tout ça, bon, il y a des volumes là-dessus. Par contre, en revanche, la sexualité masculine, elle est très peu, ça intéresse très peu les gens. Alors évidemment, quand vous êtes confronté à ça, d'un seul coup, vous dites « mais hey, moi, je vais un peu aller voir ce qui se passe ». D'où des lectures à nouveau. Et donc ça, c'est vrai que le diagnostic qui vous est annoncé, le pronostic qui vous est annoncé, évidemment, vous amène à brusquement envisager un petit peu votre vie, mais aussi votre sexualité, qu'on vous dit menacée d'une autre manière. Et le livre est un peu né, en fait, de cette réalité devant laquelle je me suis trouvé.
Oui, mais cette panoplie, ce sont des armes, en bonne et due forme.
Ah, vous parliez de ces armes-là.
Mais oui.
Mais c'est aussi... je pensais que c'était, c'était une métaphore. Les armes, les premières armes qui étaient menacées, voyez-vous, c'était, c'était celle à laquelle pensais.
Vous avez quand même pensé tout de suite à votre 6.35, 22 longs rifles. Et
bon,
vous avez beaucoup d'armes chez vous ?
Juste ce qu'il faut pour tenir un siège. Bon, oui, et comme vous avez pu lire, je me suis aussi pas mal intéressé à tous les hommes qui ont été confrontés à des types de réalités comme celle devant laquelle j'étais moi et qui ont choisi... pas tous, mais enfin, je pense à Gary, je pense à Hemingway, etc., qui ont choisi effectivement le suicide, et les suicides, d'ailleurs, souvent un suicide brutal par arme. Et puis, je raconte aussi que j'avais rencontré mon vieil ami qui m'avait appris que lui-même, étant malade, avait sa carabine 22 longs rifles qui était prête. Et donc, voilà, peut-être aussi c'est venu de là. Et puis, d'un seul coup, en effet, je me suis dit, tiens, Bon, c'est toujours, on se dit, si vraiment on va très mal, qu'on devient une espèce de vieux gâteux qui pisse dans son froc, etc., parce que c'est aussi la menace qu'on peut avoir, c'est pas seulement la perte de la virilité, mais on peut, tout ça, on vous prévient, hein, vous dites, non, à ce moment-là, je sais pas, puis j'aurais eu le courage, mais enfin, on se dit, il y a au moins cette possibilité-là de pas finir quand même comme un lamentable vieillard cacochi, mais faisant pipi dans son froc, voilà.
De l'opération, vous ne vous souvenez que d'une nuit, pour vous, vous l'avez vécu comme une nuit.
C'est l'anesthésie, hein. C'est quand même l'anesthésie, c'est pas le sommeil profond qu'on a quand on dort. Je sais pas si vous êtes déjà passé par là. Moi, c'était pas la première fois, hein. Mais c'est quand je dis que c'est probablement quelque chose qui doit ressembler à la mort, au néant, c'est-à-dire qu'il y a rien, c'est-à-dire que il y a pas de durée. Il n'y a absolument aucun rêve, enfin pour ce qui me concerne, je ne sais pas si des gens qui ont vécu cette anesthésie ont rêvé par exemple, là le temps il n'existe plus, c'est-à-dire vous partez, vous vous réveillez, rien. Bon,
c'est une phrase que vous dites aux infirmières, je ne mâcherai pas mes mots, toute queue a une tête.
Oui, c'est ça, oui, bon, mais voilà, donc l'opération, on ne peut pas vraiment en parler, on peut parler de ce qui s'est passé avant, on peut parler évidemment des effets ensuite secondaires et tout ça, mais l'opération elle-même, c'est pour ça que j'ai mis au début d'ailleurs la description clinique que m'a donné le chirurgien de cette opération, parce que je trouve ça assez beau d'ailleurs. Là, je dis que la langue médicale est une langue d'une telle précision, même si on ne comprend pas tous les termes. Mais enfin, bon, je tenais à ce que voilà, la réalité de l'opération soit là. Je ne pouvais pas, moi, évidemment, en parler.
Les infirmières sont présentes.
Oh, bah oui, heureusement. C'est toujours des femmes, oui, bien sûr. Puisque, en effet, quand vous allez partir, quand l'anesthésie vient, vous avez des visages de femmes qui sont au-dessus de vous, et quand vous vous réveillez, vous avez encore des visages de femmes.
Ne sont pas dans la parlotte, dites-vous. Des femmes qui savent se taire.
Oui, parce que, comme vous savez sans doute, on parle beaucoup quand il s'agit de sexe. On dit un peu n'importe quoi, souvent. Et évidemment, j'avais affaire inévitablement à des amis, hommes ou femmes qui passaient, qui avaient tous leur discours sur ce qui m'était arrivé, sur ce qui allait se passer, etc., sans rien connaître, hein, de tout ça. Et donc là, au contraire, vous avez des gens qui font des gestes précis, qui ne vous disent rien, ou simplement des choses plutôt agréables, comme ça, pour vous rassurer. Et je dois dire que cette espèce de silence, comme ça, de ces femmes, était bienfaisant.
L'opération, c'est l'un des thèmes de la balance des blancs, mais il me semble qu'il y en a un autre tout aussi important, Jacques Henric, c'est le désir de quitter l'Occident.
Oui, c'est...
De balancer un
monde. Ouais, pourquoi est-ce après avoir vécu cette chose un peu désagréable de l'opération, de cette menace, de ces menaces à la fois de perdre sa virilité, menace aussi d'une mort qui serait possible, etc. Pourquoi brusquement ce thème est venu je ne l'avais pas prémédité. Je me suis brusquement intéressé à tous ces auteurs qui, en un moment, en avaient marre. Bon, sans doute, moi aussi, en me réveillant. Après, je me suis dit, j'ai marre d'un certain nombre de choses. Et pourquoi tellement d'auteurs ont fui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cet exil ? Pourquoi Rimbaud ? Pourquoi Baudelaire ? Pourquoi T.H. Lawrence ? Pourquoi tous ces gens ont dit l'Occident, il y en a marre ? Allons voir un petit peu ce qui se passe en Orient. C'est une réalité, un vieux fantasme aussi, hein, tout ce besoin de quitter ce que Massignon appelait la motte, hein, quitter le terroir. On en a marre, on se dit on va aller voir ailleurs, voir si c'est plus batailleur. Quelquefois, évidemment, on s'aperçoit que les départs et les réalités qu'on découvre à ce moment-là ne sont pas celles qu'on espérait. Hein. Le cas le plus typique d'ailleurs, c'est un peu Nerval dont je parle, hein, qui partait lui avec l'idée qu'il allait trouver. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on cherche toujours ? C'est, je le dis, mais je crois que c'est ça. C'est toujours la femme. On cherche la femme. On part, la mère, la déesse, je ne sais quoi. Et puis on trouve, en fait, on trouve des femmes. Et évidemment, quand Nerval est parti parti en espérant trouver une de ses filles du feu, une belle femme à la peau blanche qui ressemble à ses peintures de la Renaissance. Il trouvait des négresses qui n'étaient pas forcément très jolies, etc. Voilà, ça c'était le rock très dur de la réalité. Donc en général, ces voyages se terminaient par des retours qui n'étaient pas toujours glorieux. Sauf si on n'était pas un idéaliste comme Flaubert, qui lui y allait tranquillement en se disant « je vais baiser des femmes » et puis c'est marre. Il n'allait pas chercher la femme, donc il n'y a pas eu de catastrophes sentimentales ni rien. Mais les autres ont pas mal morflé hein, dans leur départ comme ça et dans leur heureux. Je cite Barthes aussi, qui lui voulait quitter un peu sa mère. Et quand il était trop loin de sa mère, il fallait qu'il revienne très vite. Bon, lui aussi cherchait une femme, c'était la mère. Bon, voilà. Et puis d'autres au contraire fuyaient la mère. Enfin bon, c'est tous ces va-et-vient là comme ça qui m'intéressaient.
C'est-à-dire que vous sentant plus léger après l'opération, prendre congé d'un monde trop lourd.
Oui, est-ce que c'est l'opération elle-même? Est-ce que ça a cristallisé des choses chez moi? C'est vrai que ce monde dans lequel on a été jeté sans l'avoir choisi, et il ne faut pas trop se plaindre, hein, nous sommes... dans une démocratie, mais c'est vrai qu'il y a bien des aspects de cette démocratie aujourd'hui qui me sortent par les yeux, quoi. C'est pas bon, c'est vrai que c'est la pire des choses, mais il n'y a pas mieux, hein, la démocratie. Mais cette démocratie aujourd'hui, il y aurait tellement de choses qui à en dire. Je fais l'hypothèse que les révoltes arabes actuelles qu'on peut voir se développer, peut-être vont redonner un sang neuf à cette idée de démocratie, mais celle dans laquelle on vit, je la trouve vraiment un peu essoufflée, quoi, pour tout dire. J'en ai un peu marre de tout ça, de cette espèce de belles âmes qui sont là avec des grands discours, etc. C'est les belles âmes hégéliennes, en ce moment il y en a partout, dans la presse, dans la politique, je veux dire, tout ça me gonfle terriblement. Voilà. Bon, c'est tout ça un peu que j'ai envie. Quand je parle de fatras occidentales dans le livre, c'est un peu tout ça, quoi. Ouais. Le moralisme, là, bon, parce que, enfin, relire Nietzsche sur ces questions-là.
Et puis, il y a un troisième thème, il me semble, dans la balance des Blancs, c'est le sexe. Je me souviens qu'il y a quelques années, vous aviez fait beaucoup de bruit, Jacques Henrique, en reproduisant l'origine du monde sur une couverture d'un de vos livres. Ici, il y aurait comme la version masculine de l'origine du monde. Hein. Tout au long du livre, vous regardez votre sexe.
Eh oui.
Et l'idée vous vient d'en comparer les états avant et après l'opération.
Eh oui, parce que... Quand vous vous réveillez, évidemment, vous vous dites « Eh oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que, d'autant plus qu'on ne sait pas trop ce qu'on vient vous faire fouiller dans le bas-ventre. Hein. On a bien une idée de ce que c'est, on vous a un peu expliqué, mais enfin bon, comme on vous a averti et que les effets pouvaient être terribles, vous allez vérifier, vous dites « Mais alors, qu'est-ce que c'est devenu ?» Donc je fais une espèce de description quand même assez précise de ce qu'est le sexe après opération. Il n'a pas été touché, lui, du tout, hein, ça n'a rien à voir. Mais enfin, bon, on a quand même une certaine trouille. Et puis, on regarde un peu les évolutions aussi. Bon. Et puis, ça vous amène du coup à se dire, mais moi, je suis en train de regarder mon sexe. Est-ce que les hommes, en général, et même les femmes, regardent vraiment le sexe masculin? Et je découvre, en effet, en lisant beaucoup de textes, que j'avais sans doute lu, mais ça ne m'avait pas frappé, qu'il y a un certain sens visuel qui manque à presque tous les textes écrits par des femmes, beaucoup par des femmes, et aussi par des hommes, quant à ce qui est l'aspect physique d'un sexe. Et alors surtout d'ailleurs quand le sexe est en érection, c'est-à-dire que toute cette littérature, même la meilleure, hein, je ne parle pas de la littérature, la basse littérature pornographique, mais la meilleure littérature, je pense à Aragon, même... pas tellement Casanova, mais Sade ou même Bataille, les descriptions des sexes masculins sont des stéréotypes. On se dit, mais c'est pas possible. Bon, sauf l'exception que je donne, c'est peut-être parce qu'il est homosexuel, c'est Pasolini, où là, il y a une description très, très précise. Bon. Pourquoi quelqu'un comme Breton, par exemple, disait qu'il ne pouvait pas se présenter devant une femme s'il n'était pas en érection ? Ce qui est quand même un rapport à son sexe très étrange. On peut quand même regarder son sexe quand il n'est pas en érection et puis éventuellement le montrer. Bon. L'homme quand même a un rapport très, très bizarre. C'est un peu ça qui m'intéressait en relisant tous ces textes. Et chez les femmes, alors n'en parlons pas, j'en fais quand même des pages et des pages pour montrer comment cette petite chose de rien du tout était traitée.
Et tout se termine, comme dans les histoires d'amour, à Venise, hein, finalement.
Inévitable.
C'est Venise qui retient votre attention, grâce peut-être à Tintoret en particulier.
Grâce à Tintoret, oui, puisqu'il y a tout un chapitre qui est consacré à ce peintre. Et évidemment, ce thème de la virilité m'intéressait puisque je raconte l'histoire de Tintoret qui, à la fin de sa vie, il est déjà très âgé, peint un tableau très célèbre, Suzanne Aubin, et qui a une histoire donc d'amour avec son modèle, qui est une jeune femme. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour un homme âgé comme ça, avec tout ce que ça comporte de possibilités d'impuissance, d'avoir un rapport avec une très jeune femme. Et on voit cette chose absolument formidable qui est que Tintoret transcende tout ça en faisant un très beau tableau et qu'on se dit dans le fond, l'œuvre d'art permet de surmonter en fait toutes ces histoires qui sont très importantes et en même temps complètement dérisoires.
Et puis Venise, c'est déjà un peu quitté l'Occident.
C'est un peu qui c'est le bord, c'est le plateau de la balance quoi. Enfin du moins c'est pas le plateau, c'est l'aiguille quoi, c'est le fléau de la balance où on peut pencher d'un côté ou de l'autre. Il y a aussi un autre personnage qui amène Venise, je crois c'est Aragon aussi, avec non pas le suicide mais la menace d'un suicide pour une histoire d'amour, de jalousie, enfin voilà. C'est-à-dire qu'il y a je parle du bon Venise du 18e, la fête, la joie, etc. Et puis la Venise morbide. La peste, Thomas Mann, Wagner, enfin tout ça. Bon.
La balance des blancs de Jacques Henric est publiée aux éditions du Seuil. Du jour au lendemain, Pierrick Charles, Mydia Portis-Guérin, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.